Après une pluie qui avait duré toute la matinée, un grand soleil a illuminé la manifestation du 5 octobre à Lille. La manifestation qu'on pourrait dire de rentrée sociale, car elle était intersyndicale, unitaire et régionale. Nous y étions pour recueillir la parole des manifestants et manifestantes. Il s'y trouvait des professions fort différentes, des retraités de la fonction publique, des personnes exerçant actuellement dans la fonction publique, aux finances publiques par exemple ou aux collectivités territoriales, une personne travaillant comme AVS, un collectif de routiers et routières de chez Sud, une jeune fille très en colère contre les divisions opérées par le discours zémourien. Les gilets jaunes étaient présents également. Et parmi toutes ces personnes qui criaient des slogans et revendiquaient leurs droits, en fin de cortège, il y avait un député, Monsieur Hugo Bernalicis. Une manifestation qui s'est faite, comme souvent, joyeusement et en chanson.
Pan, 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 ton patron, t'auras sa galette. Pan, 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 ton patron, t'auras son pognon. Si tu pans pas le patron, t'auras pas sa galette. Si tu pans pas le patron, t'auras pas son pognon. Pan, 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 ton patron, t'auras sa galette. Pan, 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 ton patron, t'auras son pognon. Si tu prends pas le patron, t'auras pas sa galette. Si tu prends pas le patron, t'auras pas son pognon.
Parmi les personnes rencontrées, il y avait une personne travaillant comme AVS qui aide les élèves en situation de handicap. Elle critiquait à la fois le peu de reconnaissance salariale de son métier, le manque de matériel et parfois la lenteur entre le diagnostic et les prises en charge MDPH des enfants.
J'accompagne les enfants en situation de handicap et que le salaire de base est de 814 euros mensuels. On a deux fois trois ans de CDD avant d'espérer un CDI et considéré en temps partiel alors qu'on travaille tout le temps scolaire en accompagnant ces enfants-là.
Vous êtes AVS ?
Oui, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai un emploi du temps vraiment scolaire standard avec l'école primaire, mais du coup, être considéré en temps partiel alors qu'au final, on travaille toute la journée, comme tout le monde, du lundi au vendredi, c'est dégradant pour nous. Puis la prise en charge des enfants, elle n'est pas optimale, il manque de matériel,
Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'inclusion scolaire ? Justement, les difficultés qu'elle rencontre.
Les difficultés, c'est qu'entre le moment où le professeur heureusement réagit et diagnostique l'enfant, le moment où il y a un accompagnement qui se déclenche, le moment où le matériel spécifique arrive. Parce que sur des enfants, par exemple, hyperactifs, il faut un matériel très particulier pour pouvoir accompagner ces enfants-là en classe, en charge, ou alors très tardivement. Ça prend entre les démarches pour les inscriptions et les notifications MDPH pour l'accompagnement. Il y a toujours 6 mois, 1 an de décalage. Donc tout ce temps-là, les enseignants sont livrés à eux-mêmes avec des enfants qu'ils accompagnent le mieux possible, mais difficilement. Ces enfants-là, du coup, se sentent un peu perdus et en décalage avec le groupe classe. Et voilà.
Il y a une grosse problématique qui se soulève actuellement. C'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et donc là, il y a un énorme travail à faire. C'est clair. Je ne suis pas persuadé que les instances, telles qu'elles soient, ont pris en considération la dangerosité des risques psychosociaux. Voilà. C'est aussi, je dirais aujourd'hui, une des parties de notre combat.
Je suis venue vers vous parce que j'ai vu écrit Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Donc je voulais savoir un petit peu, j'ai jamais parlé avec des personnes de cette organisation.
Alors la Fédération autonome, c'est un syndicat qui est spécialisé entre guillemets sur tout ce qui est fonction publique des trois versants, l'hospitalier, le territorial et l'hospitalier. On n'est pas en interpro, donc comme je vous ai dit, on représente uniquement la fonction territoriale. Hein. Donc voilà.
Vous faites quel métier alors vous ?
Alors moi, je suis délégué permanent, c'est-à-dire que j'exerce mon métier à 100%, voilà, tout à fait, absolument.
Donc vous défendez les droits des travailleurs toute la journée ?
On essaye, et en l'occurrence aujourd'hui.
Nous y avons croisé également un collectif de routiers et routières du syndicat Sud, qui nous ont expliqué en quel sens la convention collective unique au SMIC horaire, à laquelle ils sont soumis toutes et tous, quel que soit leur niveau de qualification, quel que soit leur diplôme ou la pénibilité, la dangerosité de leur course, conduit à un sentiment d'injustice, car tous traités sur un pied d'égalité en termes de salaire, ils n'ont pas tous les mêmes compétences et aimeraient être reconnus à la hauteur de celles-ci. Il nous parle également des conditions d'hébergement sur les aires d'autoroute et des problèmes psychosociaux, des problèmes familiaux qui peuvent être engendrés par ce métier, avec ses longues absences et cette solitude dans la cabine.
Mais c'est vrai, il y a eu une année, il y a eu 3 suicides à la Samat.
Vous êtes de quel, donc vous êtes Sud Solidaire routier.
Route.
La route. Ouais.
Route et péage.
Non, route, pas péage.
Nous sommes très en colère parce qu'en fait, le SMIC a augmenté de 2,2% et les taux horaires, maintenant, on est à 1 centime au-dessus. Donc, c'est un métier qu'on a smicardisé. Il faut savoir que nous, quand on fait, mettons, 200 heures, c'est 1780 euros hors frais. Donc, c'est pour 200 heures quand même. Et on trouve qu'on est vraiment, mal payé, quoi. Et ça suffit, quoi. Ça suffit. Les négociations annuelles qu'il y a chaque année nationale, c'est des augmentations de misère. Hein. C'est des 0,4-0,5%. Et le SMIC qui a augmenté à 2,2%, ben on se retrouve... on est des smicards, nous les chauffeurs routiers, on est des smicards et ça suffit maintenant. Bah, c'est un métier épinaire, nous on ne regarde pas les heures, on travaille du lundi au samedi, on peut faire 12 heures chaque jour, on est loin de la famille et on n'est pas, voilà. Et
d'autant plus,
comme ma collègue et moi-même, nous sommes des conducteurs de matières dangereuses et on n'est pas payé à notre juste valeur. Donc ça devient le transport d'antan et maintenant, ça a bien changé, mais ça n'a pas changé dans le bon sens, on va dire.
Alors du coup, bah, par exemple, quels sont les effets sur la santé mentale qu'il y a dans votre métier ?
Bah, nous, c'est plutôt le stress. C'est beaucoup de stress, beaucoup de contraintes.
Tu as l'éloignement de la famille quand même. Donc le problème, c'est que tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le couple, dans la vie de famille, à la maison, eh ben, on les traîne avec nous dans la cabine. Et quand on rentre tous les soirs, on arrive encore à prendre pied sur les problèmes familiaux. Quand on est absent de toute la semaine, ben, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, conducteurs, c'est compliqué pour nos compagnes ou nos compagnons, parce que on a quand même Patricia qui est là avec nous. Donc voilà, donc c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué. Les problèmes des enfants, le problème de la famille, voilà. Donc c'est une surcharge en plus sur notre profession qui est à l'agonie.
C'est une convention collective qui, à revoir, faut en comble, hein, faut le dire, elle date du 26 décembre 1952. C'est une convention qui est devenue obsolète et on régresse en fait. Le transport routier est en train de régresser, mais d'une vitesse incroyable.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier ?
Moi, ça fait 28 ans.
15.
Ça fait depuis 2004.
Ah ouais.
17 et moi 25.
Waouh.
Les conditions sanitaires sont déprimantes aussi.
Ouais. Oui, ouais. Avec le Covid.
On a l'impression de vivre dans des camps de Rome, sur les parkings. Et l'été, on a l'impression de vivre dans les toilettes publiques, tellement ça pue la pisse, tu peux pas ouvrir tes fenêtres.
Dans la grande ville de Paris, dans la grande ville.
Ça y est, la police arrive, la police du capital.
Il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son.
Dansons
la ravachole, vive le son de l'explosion.
C'est les droits des travailleurs, tout d'abord, qui ont été mis quand même pas mal à mal ces dernières années, où il y a eu des reculs très sérieux avec le gouvernement actuel, mais même le précédent, hein, qui avait entamé les choses. Donc voilà, donc je pense qu'on en est là. Le droit à une juste rémunération, par exemple, ça c'est un droit aussi, je pense. Et de plus en plus, on voit les gens le clament dans tous les champs professionnels.
Avec Nicole Pénicaud à l'EIT, ça va s'arranger.
Avec quoi ?
Je dis avec Nicole Pénicaud à l'EIT, ça va s'arranger.
Ouais.
Ah oui.
Par exemple, oui, je ne sais pas si c'est le meilleur.
C'est vrai que c'est le fonctionnement de Macron, enfin de la Macronique, de nommer des personnes où d'avance on a compris. En connaissant le nom de la personne nommée à ce poste, oui, qu'on allait être dans une voie sans issue.
Sans issue, je ne sais pas si c'est sans issue. Je pense que c'est une issue pour le capital, c'est sûr.
Oui, c'est effectivement. Et alors, du point de vue des droits des travailleurs, qu'est-ce que vous êtes donc chez Solidaire, qu'est-ce que vous mettez en avant ?
Qu'est-ce qu'on met en avant ? Déjà une juste rémunération, comme je vous disais à l'instant, hein, je pense que c'est... une des premières choses, hein, le travail, c'est pas contre aucune contrepartie, hein, je dirais. Et la première contrepartie, c'est quand même d'être justement rémunéré. Et je pense qu'il y a de plus en plus de travailleurs, et je prends le mot travailleur au sens très large, parce que pas seulement les salariés, hein, mais je pense aussi au monde du travail qui subérise, comme on dit maintenant, à tous ces gens-là qui se font exploiter proprement. et simplement par toutes les grandes multinationales et qui sont largement aidées par le gouvernement, il faut le dire, hein, parce que le gouvernement ne fait rien pour prendre la défense de ces personnes-là, par exemple.
La nouvelle réforme du chômage, qui est quand même une réforme scélérate. Hein,
exactement.
Et en plus, bon, pour les services publics, et aussi ça a à voir avec les conditions de travail, notamment avec la précarisation et le télétravail, l'ubérisation, enfin tout ce qu'on connaît. Quoi.
Quel est votre travail ?
Alors moi, ce qui me concerne, je suis aux finances publiques.
Et vous, monsieur ?
Moi, je suis retraité, j'étais à France Télécom. Non, c'est simplement pour dire qu'il y a aussi la COP26 à Glasgow qui est prévue au mois de décembre et qu'il faut absolument qu'on se mobilise aussi sur ce plan-là, quoi, hein. Mobilisation écologique et sociale, et aussi pour peser sur la présidentielle, parce que montrer que le mouvement social est dans la rue et qu'il est... Enfin, on se souviendrait plus nombreux, mais bon.
Travailleurs, chômeurs, ne te trompe pas d'ennemi, ton ennemi c'est pas l'immigré, ton ennemi il est en haut, ton ennemi c'est celui qui s'est goinfré pendant la crise sanitaire, ton ennemi ce sont les milliardaires qui ont doublé leur richesse personnelle, c'est là qu'ils sont nos vrais adversaires, ne te trompe pas d'ennemi, n'écoute pas Zemmour.
En tant que jeune et une génération qui est sacrifiée, je ne peux pas laisser Monsieur Zemmour, parce que là tu es dans la ville de Lille. Il faut savoir que dans Lille, ce samedi dernier, Monsieur Zemmour s'est pavané avec son torchon, avec 2000 personnes à l'intérieur, qui prônaient une république péténéiste, une république de l'habit, une république du média. Le souci, c'est que lui impose son discours, qui est en fait très très dangereux. Ce connard d'Hitler, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réussi à gagner les élections parce qu'il y avait une économie en baisse totale, une grosse crise chômage. Les gens n'y croyaient plus, qui sont venus vers la névrose, excuse-moi du terme. C'est ça qui arrive à une dictature, une tuerie. Monsieur Zemmour, on n'y arrivera pas. Monsieur Zemmour, la jeunesse française de la première, la deuxième, de la troisième génération avec la quatrième, vous laissera pas faire. Ça c'est clair. Vous avez les jeunes derrière dans les rues qui sont prêts à bloquer tout le pays pour que vous partiez directement.
Les jeunes dans la galère !
Les jeunes dans la misère !
Dans cette société-là !
On va pas !
Les jeunes dans la galère !
Les jeunes dans la misère !
Dans cette société-là !
On va pas !
Que pensez-vous de cette phrase « Pour ma santé mentale, respectons mes droits »
Oui, c'est important parce qu'on est là dans une séquence tout à fait particulière où le droit à la dignité, le droit à vivre normalement, le droit de se déplacer, d'aller où on veut, le droit de pouvoir aller au restaurant, au bar, au musée, un peu où on veut, est remis en cause du fait de la situation sanitaire. Et on voit que c'est maintenant qu'il y a une énorme vague de troubles psychiatriques et de problèmes de santé mentale dans le pays, avec un hôpital psychiatrique qui est en berne et qui est un sous-effectif, où les soignants eux-mêmes dans ces secteurs-là sont en souffrance. Et donc on voit bien que respecter les droits, c'est extrêmement important pour la santé mentale. Et puis il y a une autre chose quand même, c'est que tout ce climat anxiogène, il est créé aussi par toute une ambiance où on nous explique que la sécurité, c'est la première des libertés, et qu'il y aurait un droit à la sécurité qui surplomberait tous les autres. Et que par ce biais-là, on va légitimer le fait d'avoir une surveillance de masse, le fait d'être donc avec les drones, les caméras piétons, les caméras de vidéosurveillance, les caméras embarquées, enfin bref, toutes les caméras possibles et imaginables. Et je crois que tout ça crée une ambiance dans le pays qui est tout à fait délétère pour la santé mentale. Et je ne dis pas santé mentale au sens où commun, où on pourrait entrer, genre... mais vraiment au sens y compris médical, où on voit effectivement qu'il y a des difficultés là-dessus. Et puis, on le voit aussi au travail, respecter le droit du travail, pour peu qu'il y en ait un, parce que là, oui, depuis les ordonnances Macron, on peut dire qu'il y a quand même un droit du travail digne de ce nom, mais respecter le droit du travail, c'est aussi faire en sorte que les travailleurs puissent travailler dans des conditions qui soient de santé tout court, en fait, et qui soient efficaces. Et on voit bien que nous, on avait mené une bataille à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire de la France insoumise, pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître comme maladie professionnelle les conséquences des burn-out. Ouais, c'est une bataille qui semble normale, logique et légitime. Et même celle-là, on n'a pas réussi à les convaincre, La République en marche. Non, mais en fait, ça ferait pas trop de monde à indemniser, parce que du coup, en réalité, par la force des choses, les gens qui font des burn-out, les conséquences de leur burn-out, ils sont en arrêt maladie. C'est juste qu'on ne le reconnaît pas comme accident de travail. Et c'est ça qui est navrant, c'est qu'à la fin, finalement, c'est quand même pris en charge par la Sécu, c'est quand même, et c'est pas reconnu. Et comme on le reconnaît pas, ça veut dire que les employeurs eux-mêmes n'en font pas un sujet en tant que tel. Et puis on a vu comment ils ont cassé avec les ordonnances Macron, et puis la loi fonction publique pour le versant fonction publique, pour supprimer et casser tous les CHSCT, les comités hygiène, sécurité au travail, qui étaient pourtant les outils pour faire respecter les droits, justement, les droits des travailleurs, les droits à une sécurité matérielle au travail, une sécurité au travail pour le coup, et que tout ça a volé en éclats et que aujourd'hui les relations de travail sont atomisées et les gens sont livrés à eux-mêmes. Donc ça, c'est pas bon, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles souvent on emploie dans les manifestations et ailleurs le terme de dignité au travail. Parce que c'est ça la bataille fondamentale.
Macron, il nous a foutu un truc où est-ce que psychologiquement, il nous a bousillé, parce que tous les jours c'était des morts. Là encore là, on n'en parle plus trop, mais par contre toutes les histoires psychologiques qu'on va se prendre en pleine tronche, ça va séparer tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont dire faut pas faire ça parce que tu vas donner le Covid à tout le monde. Et ça a foutu la merde partout. Donc oui, c'est surtout l'histoire du Covid qui a foutu la merde pour le niveau psychologique, et c'est pas terminé parce que là c'est que le début. Là les jeunes qui ont été pendant un an, deux ans enfermés chez eux, je pense que ça va péter après quoi, ça va se ressentir après, et même chez les ados ça va péter, et puis on connaît pas ce que ça va faire. Ouais, pour moi je vois ça comme ça. Alors au niveau des gilets jaunes, nous, ce qu'on souhaite depuis quelque temps quand même, c'est qu'on arrête d'avoir un gouvernement en fait. Nous, on veut que ce soit nous qui décidions de ce qu'on doit faire. Donc nous, on voudrait non plus avoir cette république où est-ce qu'il y a une seule personne qui est au pouvoir et qui décide de tout, mais ce qu'on voudrait, ce serait que nous tous, on puisse décider de tout ce qu'on veut en fait.
Une des devises zapatistes, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est « le peuple décide, le gouvernement obéit ».
Oui, c'est ça. En fait, le gouvernement, normalement, ça devrait être nos salariés, quoi. Donc, c'est nous qui devrions décider. Et puis, eux, ils doivent dire « Ah oui, ok, on va faire ce que vous voulez ». Et là, c'est pas ce qui se passe.
Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là.
En définitive, une très belle manifestation qui semble ouvrir le pas à une rentrée sociale revendicative et combative.
Ben, on continue, on lâche rien, et puis pour nos droits, pour nos enfants aussi, parce qu'il y a des enfants derrière. Donc, et voilà.
Pour la justice sociale et que tout le monde ait sa dignité.
Les mots de la fin, je pense qu'il n'y a pas de fin, il y aura le combat continu.
Vive la liberté.
Bah, pour le mot de la fin, ce serait bien que à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.